Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe Noni.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème difficile, car certains sont nés sous X et le découvrent au détour d'une conversation. D'autres sont abandonnés par leurs parents et l'apprennent un matin ou une après-midi avec cette phrase liminaire. Il faut que l'on te dise quelque chose. Quelque chose qui change une vie et le rapport à celles et ceux que l'on pensait être ses parents. C'est ce qui est arrivé à notre invité du jour. Bonjour Philippe Irigoyen.
Bonjour Philippe. Bonjour Diego.
Bonjour Philippe.
Pourquoi j'ai été abandonné par mes parents? C'est le titre de votre livre. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cette histoire? Alors pas que votre histoire, la vôtre et celle de vos ancêtres.
C'est-à-dire, bon, j'avais... c'était peut-être pour un peu...
Exorciser.
Oui, sortir ce que j'avais en moi, peut-être, parce que je n'ai jamais avoué nulle part que j'étais né, abandonné par les parents, et que j'étais élevé par d'autres personnes. Parce que je ne pouvais pas dire que j'étais
C'était une honte, c'était un
Oui. Le jour où j'ai réalisé que, comme vous dites, en commençant, que c'était pas mes vrais parents qui m'avaient élevé et que ils m'avaient abandonné. Oui, effectivement, c'est comme une honte, quelque chose qui, parce qu'autour de moi, tout le monde avait ses parents, mon père, ma mère. Moi, je pouvais pas dire mon père et ma mère. Bon, ils étaient où? Qu'est-ce que je faisais là? Comment j'étais tombé là? Bon, c'est vrai. Là, comme je le raconte d'ailleurs dans le livre, quand il a fallu remplir un papier officiel, je crois que c'était pour mon BEPC, ce qu'on appelait le BEPC avant, il fallait remplir un formulaire, donc il fallait mettre nom du père, nom de la mère.
D'accord.
Et alors, moi, nom du père qui? Alors, quand j'ai dû mettre nom du père, père inconnu,
D'accord.
Et j'ai regardé, je vous assure, bon, j'avais 14-15 ans, mais je regardais à droite et à gauche pour voir si personne ne voyait ce que j'écrivais, et presque en cachette. Et vraiment, si j'avais pu éviter rentrer sous terre, je l'aurais fait, je crois, tellement... c'était quelque chose d'épouvantable quand on réalise qu'on doit mettre père inconnu. C'est là où on réalise vraiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ou qui n'a... Et donc pendant, même pour mon travail, j'ai travaillé 37 ans ici à Lourdes, dans une société, et il y avait que deux très proches amis qui savaient, qui connaissaient mon histoire. Mais après, tout le reste du personnel ne savait pas, Bon, la question ne s'est pas posée, bon, on n'est pas, vous savez, au travail, bon, on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ton père, ta mère, ou bon, voilà, c'est vrai que ça ne s'est pas présenté, mais c'est vrai que... Et ça m'a, ce livre, un jour, je me suis dit, il faut que j'écrive, mais j'ai dit, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas écrire.
Et quel était le déclic?
Le déclic, c'est... J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Hippolyte Rigoyen, président basque, parce que j'ai fait beaucoup de généalogie, donc pour retrouver mon père. Et donc je suis allé deux fois en Argentine, et là-bas, il me disait, tu sais, on a eu un président Hippolyte Rigoyen qui a été deux fois président ici, de descendance basque. Est-ce que c'était quelqu'un de ta famille? J'ai dit, je n'en sais rien. Donc je suis allé deux fois, en 2010, quand je suis revenu. J'ai trouvé tellement d'éléments sur ce fameux président Hippolyte Rigoyen, enfin de descendance basque, que j'ai écrit mon premier livre. Et après, à la suite de ça, bon, il a eu un petit succès quand même, les gens ont apprécié, je me suis dit, tiens, pourquoi maintenant que tu as une première expérience, tu pourrais pas te lancer à écrire ton histoire? Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais
ça veut dire se livrer.
Oui, et c'est écrit avec, comme on dit, vulgairement, avec les tripes,
parce que ça veut dire que par rapport à ce que vous disiez, l'ado, qui a 14 ans, décide à un moment donné de dire, qui est obligé de mettre de père inconnu, mère inconnue, puis qui regarde à droite et à gauche s'il y a un camarade ou une camarade qui le voit pour que surtout ça ne soit pas su, puis là d'un seul coup, vous décidez de vous ouvrir, d'aller vers le monde et de dire Voilà, je vais dire que mes parents m'ont abandonné. Vous n'êtes pas né sous X, que vos parents vous
ont
abandonné.
Oui, oui, oui. Ma mère m'a reconnu, oui, voilà. Mais voilà, je ne suis pas né sous X, mais ma mère m'a reconnu. Mais après, mon père, bon, enfin, vous avez vu l'histoire, ouais. c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire,
oui. Oui, oui. Et donc, je me suis... Ah, pardon.
Oui, non, une question, j'avais juste une question, c'est vous n'aviez pas été adopté, vous étiez étiez dans un orphelinat, c'est ça?
Je suis né dans une ferme, parce qu'avant, à la maternité, c'était les femmes accouchées à la maison.
Ouais, donc, avec une sage-femme, oui.
Oui, ma mère avait été basque espagnole, donc est née dans un petit village basque espagnol de la Navarre. Et moi, je suis né à Saint-Étienne-Baïgorry, au Pays Basque, dans la Basse Navarre. Mais il n'y a que 8 kilomètres qui nous séparent de la frontière basque espagnole. Donc ma mère, à 17 ans, qui est tombée enceinte dans un Pays Basque espagnol en 1947, c'était la honte. Bon, c'était pas possible, une Espagne catholique en plus comme ça, et dans un village où mes grands-parents étaient connus, et la fille aînée qui tombe enceinte à l'âge de 17 ans, non, c'était pas possible.
Donc, oui, et puis en plein franquisme en plus.
Ouais, donc pour cacher cette honte qui risque de tomber sur toute la famille, ma mère l'ont envoyée au Pays Basque français, donc à Saint-Étienne-de-Baïgorry, chez sa tante, qui était une sœur à ma grand-mère. Et elle a accouché là, et là, elle voulait donc me mettre dans un orphelinat, et ma marraine, ou ma grand-tante, si vous voulez, qui était ma marraine après, lui a dit « Non, cet enfant, tu le laisses là, nous, on va l'élever, tu ne vas pas le mettre dans l'orphelinat. » Donc ma grand-tante ou ma marraine, avec son mari, qui était devenu mon parrain, m'ont gardé, et m'ont élevé.
D'accord.
Donc, c'est grâce à eux si je n'ai pas fini dans un orphelinat.
Ok. Voilà. Mais ils n'ont pas fait d'adoption formelle.
Non.
Vous étiez confié à leurs soins. Quoi.
Ma marraine a toujours regretté de ne pas. Voilà.
Ils avaient d'autres enfants?
Oui. Donc, elle m'est beaucoup plus âgée. Enfin, déjà, la deuxième, la fille a 9 ans, elle est toujours vivante, a 9 ans de plus que moi. Mmh. Et leur fils, lui, est mort. Lui, il avait 20 ans de plus que moi. Donc, ils étaient déjà adultes.
D'accord,
presque adultes. Quand je suis né, sauf ma cousine, bon, elle, qui avait 9 ans quand je suis né. Donc,
Et alors, vous dites que votre tante a regretté. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a regretté à un moment donné de ne pas vous avoir adopté?
Non, après, c'est parce qu'il y a eu quelques histoires, comme je la raconte, à l'âge de 8 ans. Bon, ma mère s'est mariée, si vous voulez, au Pays Basque espagnol, et ils ont voulu me prendre avec eux. Et donc, ça a créé beaucoup, beaucoup d'histoires et de confrontations. Et c'est là qu'elle le regrettait. Elle m'avait dit, je regrette de ne pas t'avoir adopté, même... Bon, elle était illettrée, voilà. Bon, elle ne savait ni lire ni écrire, et bon, c'est vrai que elle ne connaissait pas les retombées, si j'ai, parce qu'elle me dit, parce que c'est elle qui m'avait déclaré à la mairie, à Saint-Étienne-de-Baïgorry, elle me dit, j'aurais dû donner mon nom, dire que tu t'appelais...
J'étais ta mère. Quoi.
Oui, que j'étais ta mère, et j'aurais dû te déclarer. Je lui dis, mais non, tu n'aurais pas pu, parce qu'après, s'il y avait une enquête et tout ça, ça retombait dessus, tu n'aurais pas pu le faire. Mais bon, ça, elle ne comprenait pas trop. Mmh. Elle pensait qu'elle pouvait arriver et dire, voilà, Philippe s'appelle pas Irigoyen, mais Safrin, parce que c'est son nom. Et donc, elle regrettait toujours. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Elle m'avait déclaré au nom de ma mère. C'est pour ça que je porte un double nom, Irigoyen et Paria, puisque en Espagne, on porte les deux noms du
père et de la mère.
Donc là, en l'occurrence, moi, je porte le nom de ma mère, double nom. Et un mois après, je pense, à peu près, je crois qu'elle est allée à la mairie de Saint-Étienne-de-Baïgorry pour me reconnaître officiellement, comme ça se faisait très souvent à ce moment-là.
Alors c'est vrai que c'est ça qui rend votre histoire touchante, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas né sous X, et on voit vraiment que... C'est votre mère tombe enceinte, on l'envoie d'Espagne en France, elle accouche, elle dit bon, je vais placer à l'orphelinat, non, votre marraine donc dit non, moi je vais l'adopter, je vais l'élever. Sauf que derrière tout ça, vous n'en êtes pas au courant, et puis un jour, vous allez nous raconter, ils vous prennent à part
À l'âge de 7 ans, parce que...
À l'âge de 7 ans, ils vous disent, on a quelque chose...
L'âge de raison.
On a quelque chose à te dire.
Voilà, oui.
Et là, racontez-nous, parce que c'est... Quand on le lit, c'est...
Parce que moi, je les appelais, en basque, c'est Aïta, le papa, et Ama, maman. Donc, je les appelais, parce que ma cousine, donc, là, qui a 9 ans de plus que moi, bien sûr, je l'entendais les appeler papa, maman, en basque, et j'ai fait pareil. Et à l'âge de 7 ans, ma marraine m'a pris, comme ça, dans la cuisine, et puis elle m'a dit, bon, comme vous disiez à la présentation, voilà, on a quelque chose à te dire. Nous ne sommes pas ton père ni ta mère.
Ah bon?
Bon, à 7 ans, bon, c'est vrai que pour imaginer ça, c'est un peu difficile, et bon, on est encore quand même jeune, bien qu'on ait l'âge de raison.
Oui.
Donc, ta mère, c'est une telle, elle habite en Espagne, ton père, moi je l'ai connu, il s'appelle Joseph Daguerre, donc c'est comme ça que j'ai su déjà à ce moment-là, parce que elle avait traversé la frontière plusieurs fois pour aller visiter ma grand-mère, donc sa sœur et toute la famille et tout. Donc elle avait eu l'occasion de le rencontrer. Et elle me dit, ton père s'appelait Joseph Daguerre, ou s'appelle Joseph Daguerre, et comme toi, lui aussi a été élevé par sa grand-mère au Pays Basque, donc dans un village du Pays Basque français, Vallon de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors là, c'est vrai que ça vous tombe là-dessus à l'âge de 7 ans. Sur le moment, non, on ne veut pas dire qu'on réalise ou que
après, mais ça déstabilise
petit,
quand même,
oui,
non?
Oui, mais après, c'est petit à petit. Et alors, paradoxalement, ce qui m'a le plus coûté, c'est pas d'apprendre peut-être ça sur le moment, c'est après que c'est venu, mais sur le moment, c'est que je ne pouvais plus appeler ma marraine et mon parrain papa et maman. C'est ça qui m'a le plus... J'ai dit, mais comment... Je dois les appeler comment? Donc, c'est ça qui m'a le plus troublé au départ. Après, l'âge venant, et après, c'est bon. Après, je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi ma mère m'a abandonné au bout de 2 mois? Tout ça, bon, petit à petit, l'histoire... ça s'est un peu bâti comme ça. Mais en gardant tout, dedans, sans exprimer quoi que ce soit, ni... Et comme je le dis d'ailleurs dans le livre aussi, c'est quand on descendait au village, puisqu'on habitait dans un quartier à 3-4 kilomètres où il n'y avait même pas de chemin carrossable, il fallait tout faire à pied. Donc moi je faisais 3-4 kilomètres pour venir à l'école à pied, le soir rentrer pareil. Et donc quand on descendait au village avec ma marraine, les gens des villages disaient « Ah oui c'est le bâtard là, c'est le en basque, bon c'est un autre mot, mais ça veut dire traduit, ça veut dire ça. Ah c'est lui là, le bâtard là. Alors comme
c'est
je
terrible, ça, comme... ça vous l'entendiez?
Oui, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je dis même en plaisantant dans le bouquin, j'ai dit ça doit être un titre de noblesse ou quelque chose.
Oui, effectivement, c'est le cas.
Mais après, quand la première fois où j'ai eu un dictionnaire, je pense entre les mains, où j'ai pu chercher le mot. Là, c'est vrai, quand j'ai vu ce que ça voulait dire, c'est sûr que, bon, mais là, c'est encore...
Vous annoncez que c'est pas vos parents, puis après, vous entendre vous faire appeler le bâtard.
Oui.
C'est une double peine. Hein.
Oui. Surtout quand on sait, quoi.
Parce que sur le moment,
quand on réalise pas, bon, ça passe. Ça, oui. Mais après, c'est vrai que.
Après, vous remontez très loin dans le temps. Vous apprenez donc que vos ancêtres étaient des bohémiens.
Oui, voilà, du côté de mon père, oui.
Voilà, du côté de votre père.
Quand j'ai retrouvé, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à faire des recherches généalogiques, j'ai retrouvé, au départ, j'avais quand même, heureusement, le nom et le prénom. Et donc, avec ça, j'ai pu quand même remonter et retrouver un peu toute sa famille, des cousins germains à mon père, voilà. Tout ça.
Et vous partez même jusqu'en Amérique du Sud.
Oui, en Argentine, oui. Deux fois,
donc,
suis allé.
Donc, en Argentine, vous avez donc là-bas des parents, donc on sait qu'il y a des Basques qui ont émigré.
Ah oui, des milliers,
Parce qu'on sait que l'équipe d'Argentine de rugby, on a notamment des joueurs de rugby qui ont des noms basques, qui sont des descendants des migrés basques. Et alors, moi, ce qui m'a impressionné, c'est notamment en page 219, parce que vous remontez très loin, et vous remontez tellement loin que vous arrivez à un ancêtre qui est condamné et qui part au bagne de Rochefort,
oui,
j'ignorais. J'ignorais qu'il y avait un bagne de Rochefort, et voilà ce que vous écrivez. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'en fait, dans votre livre, ben, on pourrait se dire, ça pourrait être une histoire larmoyante, etc. Tout. Non, vous nous faites découvrir des choses que moi, j'ignorais totalement, notamment au bagne de Rochefort, ce que vous appelez en page 218, le voyage de chêne. Je vais vous lire. Les forçats arrivaient enchaînés par le cou en groupe de 24, les cordons ou cadènes sur des haquets. À leur arrivée, ils étaient tondus, vêtus d'une casaque de laine rouge, d'un gilet de laine rouge, d'une chemise de toile blanche, d'un pantalon de toile jaune et d'une paire de souliers ferrés sans bas. Ils portaient aussi un bonnet de laine dont la couleur indiquait la durée de la condamnation. Le bonnet rouge pour les condamnés à temps et le bonnet vert pour les condamnés à perpétuité. Une plaquette de fer blanc portée sur la casaque, le gilet et le bonnet indiquaient le matricule du condamné. Ceux qui travaillaient dehors recevaient également une vareuse de laine grise. Ensuite, on enchaînait ou on accouplait, entre guillemets, en argot, on appelait cela le mariage, les forçats deux à deux, toujours un ancien à un nouveau venu. Pour cela, on rivait une manille autour de la jambe droite du condamné. À la manille, on rivait une chaîne de 9 maillons d'environ 16 cm et lourde de 7 à 11 kg que l'on fixait à la ceinture. On réunissait les deux chaînes par trois anneaux de fer appelés organos. Deux forçats ainsi accouplés étaient appelés chevaliers de la guirlande. Rien d'étonnant à ce que mon aïeul, Jean Daguerre, n'ait pas tenu plus de 2 ans à ce régime, lui qui ne connaissait pas trop le sens du mot « travail » et qui avait plus l'habitude de vivre libre au grand air. Votre ancêtre meurt là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ben, moi, quand je lis un livre, ce que je trouve passionnant, c'est « Ah bon, il y a eu un bagne à Rochefort ?» Donc, j'ai regardé sur Internet, j'ai fait des recherches. Ouais. Puis, j'ai découvert effectivement qu'il y avait un bagne. J'ai visité Rochefort, on en parlait tout à l'heure, donc, hors antenne, hein, où je vous disais, on visite la Corderie Royale, on visite le fameux bateau, l'Hermione, qui est là. On m'a jamais parlé, quand j'ai visité ça, qu'il y avait un bagne. Ouais. C'est ce que vous indiquez dans votre livre, où vous dites que toute cette histoire a été engouffrée par le temps. Vous, derrière, avec votre livre, vous découvrez, vous nous faites découvrir des choses.
Oui, moi-même, j'ai découvert, avec les recherches.
C'est ça qui est passionnant, je trouve. Je me suis, moi, régalé à le lire parce que, derrière, vous nous emmenez, pareil, je le dis, en Argentine. Alors, moi, j'aurais voulu savoir, en Argentine, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert tous ces éléments? Parce que vous partez là-bas, votre famille vous reçoit.
Ah oui, c'est parce qu'eux-mêmes ignoraient qu'ils avaient encore de la famille au Pays Basque.
Voilà.
Donc c'est avec moi, ils ont découvert. Alors j'avais, quand j'ai découvert la famille de mon père au Pays Basque, j'ai une cousine germaine de mon père qui m'a donné une photo des 4 frères de mon grand-père et de ses 3 autres frères qui étaient partis en Argentine. Donc ils étaient pris en photo dans les années 1910 ou 12 ou 13 par là. Et donc, j'ai envoyé, parce que sur Internet, j'ai cherché Daguerre Argentine. Il m'est sorti 150 Daguerre.
Ah oui, effectivement.
J'ai écrit au moins, je ne parle pas 150, mais 130 ou 140 lettres que j'ai envoyées en Argentine. Et il y en a au moins une qui est tombée dans la bonne famille. Et c'est le petit-fils d'une cousine germaine de mon père qui était là encore vivante, qui l'a reçu et donc qui m'a contacté, puisque je mettais mon email et mon téléphone, qui m'a contacté en disant « Je crois que nous sommes de ta famille, ma grand-mère a reçu ta lettre et je crois que son père était bien un frère de ton grand-père ». Et j'ai dit oui, je lui donne les dates et tout ça. Je lui envoie la photo des 4 frères, là, de son arrière-grand-père et des autres frères, en pièce jointe. Et il me répond, il me dit, c'est extraordinaire. Tu sais que depuis plus de 100 ans, on a ma grand-mère et sa famille ont la même photo.
La même photo.
Là-bas. Donc ça prouvait bien que donc le lien s'est fait comme ça. Donc après ils m'ont invité et ils m'ont organisé une fête. Je pense trouver 80 ou quelque chose comme ça.
Voilà. Alors je précise, il y a des photos dans votre ouvrage. Vous mettez des photos effectivement de ces rencontres. hein, vous mettez bon l'assado, le barbecue.
Le
fameux assado où vous mettez donc les personnages. On voit ici un article de presse. Alors je vais demander à Diego Arrabal de le lire parce que vous êtes en espagnol. Allez,
en espagnol. Un emotivo encuentro familiar con Felipe. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de compartir la alegría del reencuentro entre familiares que no se conocían. La cita era en el camping Los Álamos. Allí se había reunido la familia Daguerre y el motivo era muy especial.
Je précise qu'on est bien sur présence, hein, c'est bien une émission en français. Hein. Je voudrais juste rappeler cette chose. Hein, on est toujours
alors,
sur
présence. En fait,
Diego
en fait,
Arrabal, qu'on entend nous lire un article en espagnol.
Voilà. Se reencontraron con Felipe Irigoyen, un familiar suyo que vive en Francia, a quien no conocían y todo se concretó gracias a que el visitante empezó a buscar a través de internet hace unos meses atrás datos de su padre y se encontró con sus familiares de Navarro. En d'autres termes, il raconte que ils vous ont rencontré et ce que vous avez raconté, donc c'est le chapeau de l'article qui est dans un journal argentin.
Voilà. Et puis voilà, ça donne un article de journal. C'est-à-dire, vous vous retrouvez, il y a un article de journal qui mettez à l'intérieur. Moi, j'avoue avoir été assez espanté quand j'ai vu ça parce que je me suis dit bon. Vous avez écrit un livre précédent pour lequel on vous avait reçu, donc un ami algérien que vous avez rencontré, que vous êtes parti voir donc en
voilà,
en
ça Algérie. C'est le dernier que je viens d'éditer.
Pour lequel on vous avait reçu. On a remonté le temps là, le contraire, donc avec le précédent. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant que je recommande. Mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné, parce que moi je l'ai lu un peu comme un guide historique. C'est-à-dire, où à un moment donné, ça parle aussi des migrations qu'il y a eu, notamment dans le pays.
Immigration basque, effectivement.
En Argentine. C'est-à-dire que l'histoire de votre famille représente un peu l'histoire de ce pays basque où il y a eu des migrations, de gens qui sont partis en Argentine. Et là, d'un seul coup, votre livre incarne cette migration avec des gens qui se retrouvent. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils sont argentins. Leur langue natale, c'est l'espagnol. Ils parlent l'espagnol. Ils parlent français toujours ou pas?
Non. Le basque, il y a dans chaque ville, il y a, si vous voulez, une association de basques. Et même des endroits, des villes où ils apprennent le basque.
Le basque, d'accord.
En Argentine, encore. En Argentine, oui. Et ce qui a plu aussi, bon, surtout au Pays basque, je décris un peu les traditions au Pays basque, qui sont un peu perdus, que j'ai connus quand j'étais gosse, puisque j'ai été élevé dans une ferme. Donc, ça a beaucoup plu aussi, parce que, bon, ça revient aussi. Ils essayent de maintenir quand même les traditions de folklore, de chant, il y a beaucoup de... Mais maintenant, ils vivent quand même avec un autre confort que ce qu'on avait. Je le raconte, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de cabinet de toilette. On a vécu...
C'est vrai que vous faites partie d'une génération qui est passée d'un monde à un autre.
Ah oui, complètement.
Voilà, qui a connu un monde, effectivement, où il y avait... pour certains, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de toilette en interne, pas d'eau chaude, pas un chauffage très précaire.
La cheminée, c'était la grande cheminée, l'âtre, l'immense.
Voilà, mais avec l'air froid qui arrivait derrière, avec les courants d'air qu'il y avait aujourd'hui. Voilà. Et on voit qu'on est passé d'un monde à un autre. C'est ce que vous expliquez bien aussi dans ce livre. C'est ça qui le rend passionnant, à la fois pour ce qui se passe ici, mais aussi pour ce qui se passe en Argentine. Mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné. Voilà, c'est un livre donc que vous avez écrit, que les auditrices et les auditeurs peuvent commander. Alors, dites-nous comment ils peuvent vous le commander, Philippe Irigoyen.
Pour l'instant, je n'ai que la librairie du Square à Lourdes comme point de vente.
D'accord.
Je suis en train de négocier avec, comme je disais, mais je n'ai pas obtenu de résultats encore, Leclerc à Méridien.
À Méridien, d'accord. Bon, et les gens peuvent vous le commander, ceux qui nous entendent.
Oui, j'en ai envoyé. De celui-là, surtout, j'en ai envoyé aux États-Unis, en Argentine, en Espagne, j'en ai envoyé un peu partout.
D'accord. Et pour vous contacter, comment les gens font
Par Internet, soit sur Facebook, ou soit...
Alors sur Facebook, c'est quoi? C'est Philippe Irigoyen?
C'est Irigoyen Iparia, puisque j'ai deux doubles noms.
D'accord.
Irigoyen Iparia Philippe.
Iparia avec deux R ou un seul R?
Oui, deux R.
Deux R et Irigoyen avec un seul R.
Même s'ils être Irigoyen, je pense qu'ils auront le... Bon. Voilà. Et ensuite, autrement, sur mon adresse email, qui est Philippe, en minuscule, donc philippe.irigoyen, I-R-I-G-O-Y-E-N, @orange.fr.
@orange.fr. Voilà. Et Philippe avec un L et deux P, on le précise, parce par moment, voilà, ça s'écrit, c'est rare.
Oui.
Mais avec certains avec deux L et un P, ou avec un L et deux P, ou avec un L et un P aussi,
voilà,
je l'ai vu.
Donc ils peuvent nous contacter, et voilà, je peux le renvoyer.
Il suffit de taper dans Facebook, on tape Philippe Irigoyen, et le premier résultat qui sort, c'est Philippe Irigoyen Iparrea.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Voilà.
Oui,
voilà. Et ben, c'est ça, être une star. Hein.
Oui.
Ah ouais.
Autrement, c'est le moteur de recherche aussi, soit Irigoyen, soit Irigoyen Paria. Il y a toutes les présentations voilà, que j'ai faites, que ce soit à Lourdes, soit au Pays Basque, on peut trouver aussi. Voilà, on peut me trouver.
Vous trouver là. Philippe Irigoyen, mon père, ma mère, ces inconnus qui m'ont abandonné. Voilà ce qu'on pouvait dire, Diego Arrabal, cette semaine. Sur ce livre, on se dit...
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Enfin, si vous le voulez.
Ah ben, oui, bien sûr.
Eh ben,
bien évidemment.
Eh ben, on se retrouve
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.